Bonjour Issa. Alors oui, effectivement, rendez-vous hebdomadaire, j'en suis très 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 heureux. Et donc j'avais en fin 2025 fait un entretien avec Alain David, qui était éditeur, qui travaillait pour une maison d'édition et qui suivait différentes créations de livres. Aujourd'hui, on va retrouver un éditeur, mais dans une situation et un parcours très atypique, différent, hors du commun. Il s'agit de Vincent Henry. C'est le créateur de la boîte à bulles en 2003. Il a donc étoffé un catalogue au fil des années. Plus de 400 titres ont été créés. Différentes collections avec différents genres, une attention pour les voix singulières, pas d'enfermement dans ses choix éditoriaux. Et puis, la boîte à bulles intègre en 2017-2018 le groupe des humanoïdes associés. Vincent Henry est également scénariste, avec notamment un livre remarquable qui s'appelle Alexandre Jacob, Journal d'un anarchiste cambrioleur. Il y en a eu d'autres. Et puis, en 2024, eh bien, les humanos demandent à Vincent Henry de revendre ses dernières parts. Et Vincent Henry est licencié par le groupe des humanos, par les Humanoïdes Inc., comme on dit, puisque le groupe est basé aux États-Unis. Que représente pour un éditeur d'être au sein d'un grand groupe et d'avoir ce parcours si atypique? Réponse avec Vincent Henry vers 14h15. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez entendu, Issa est à la technique, tout va bien. Et pour démarrer une brève importante, j'avais évoqué la semaine dernière le grand off pour remplacer le festival d'Angoulême. Et en fait, il y a ce même week-end, en lien effectivement avec ce grand off, la fête interconnectée de la bande dessinée qui se déroule du 28 janvier au 1er février. Et donc, c'est important parce que dans de très grandes différentes villes et des grandes villes, il y a des manifestations qui sont organisées pour cette fête interconnectée de la bande dessinée. Donc les organisateurs ont fédéré un ensemble de manifestations pour que cette absence du festival d'Angoulême façon habituelle, eh bien, soit remplacé par une multitude de manifestations avec donc à chaque fois des rencontres, des dédicaces, des focus sur différents libraires qui animent tout au long de l'année la bande dessinée à travers leurs espaces. Alors sur cette fête interconnectée de la bande dessinée, bien vous avez un site internet qui va vous montrer toutes les villes de France, mais aussi de Belgique et d'Espagne, où il y a différents événements. Par exemple, à Barcelone, avec l'école l'Escola Lagoso, et qui participe aussi à cette grande manifestation. Alors, à Barcelone, il y a un important festival de bande dessinée. La France y avait été invitée par le passé. Et c'est cette manifestation, donc de la fête interconnectée de la bande dessinée, va permettre de rencontrer beaucoup de productions indépendantes, des fanzines, de l'auto-édition, des rencontres avec différents auteurs, et ça, c'est à Barcelone. À Montpellier, il y a, avec différentes librairies, la librairie Bonca, il y a Soramps, Planète Interdite, Les Pluches Livres. Ces quatre librairies vont proposer un ensemble de manifestations ces quatre jours du 28 au 1er février. Il y a les Quartiers Généreux qui se situent au Beaux-Arts, qui est un groupe très passionnant à suivre, avec des initiatives très fécondes. Et donc, eux, ils vont aussi participer à cette fête interconnectée de la bande dessinée. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ce remplacement d'Angoulême. Et on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Alors, je voudrais évoquer une réédition à l'occasion de la sortie d'un nouveau roman graphique de Florence Dupré-Latour. Alors, de sa nouveauté, on en reparlera dans d'autres émissions, mais je tenais à souligner la réédition de Cruel, donc de Florence Dupré-Latour, qui était un livre au départ avec une couverture brochée, un plus petit format, et qui, avec le succès de Florence Dupré-Latour, le développement de son œuvre autobiographique, avec différents titres, qui à chaque fois aborde, et de façon inhabituelle, ne serait-ce que par sa dimension graphique, son énergie et ce dessin très ironique qui est à l'œuvre dans chacun de ses livres. Alors Cruel marquait un départ, un lancement vraiment de cette écriture autobiographique où Florence Dupré-Latour racontait son enfance et cette façon d'adorer les bêtes un peu à sa manière. Elle regarde un documentaire animalier sur son lit d'hôpital, elle reçoit un coup de téléphone de sa mère. « Avec les animaux, c'était merveilleux quand vous étiez petite », lui dit celle-ci. Pas sûr que les animaux en question, maltraités par leur jeune maîtresse, aient partagé ce point de vue. Dans les maisons successives de la famille, ils ont défilé les uns après les autres, des lapins, des cochons d'Inde, des tortues, une oie, des chats, un chien, sans compter les fourmis. Mais la plupart n'ont fait que passer, victimes de la cruauté enfantine de sa narratrice. C'est une sorte de Malheur de Sophie version trash. Ça se lit avec beaucoup d'humour parce qu'il y a déjà dans l'écriture dessinée de Florence Dupré-Latour cette ironie et son travail dans l'animation est aussi à l'œuvre dans ce livre et ce roman graphique parce que il y a un sens du mouvement qui est particulier. En attendant de pouvoir vous présenter Jeune et Fauché, la nouveauté de Florence Dupré-Latour, vous pouvez la découvrir avec Cruel, publié par les éditions d'Argo, les 208 pages de ce titre, qui est maintenant désormais en plus grand format. Je ne peux pas vous dire le prix, parce que j'ai le prix de l'ancienne édition, mais pas de la nouvelle. On va commencer les choix musicaux de Vincent Henry avec les Sparks. Ça, c'était pour la bande-son du film Annette.
So, may we start? So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it
should show they're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
Antoine Oury, dans un récent article sur le site Actualité, présente ce qui est à l'œuvre derrière le changement de nom des éditions La Boîte à Bulles, devenue Pictavita. Vincent Henry, le créateur de la maison d'édition en 2003, a développé dans un ensemble de collections une ligne éditoriale exigeante, attentive aux voix singulières, aux récits ancrés dans l'humain, aux écritures dessinées libres. En 2017, la Boîte à Bulles et les humanoïdes associés se rapprochent et la Boîte à Bulles intègre le groupe des humanos dirigé par Fabrice Guiguer. Que représente pour un éditeur indépendant de se retrouver dans un tel groupe et notamment sur la ligne éditoriale? En 2024, Vincent Henry accepte de céder ses dernières parts de la Boîte à Bulles au groupe américain Humanoids Inc. Avant le changement de nom, Vincent Henry est licencié de la maison d'édition qu'il a créée. L'affaire est actuellement devant les tribunaux. L'apport de la Boîte à Bulles depuis 2003 a été marquant. Son catalogue en témoigne. Vincent Henry est également scénariste. Cela a commencé avec La Boîte à Bulles en images en 2013 et suivi d'autres récits comme Loulou ne veut pas grandir ou Alexandre Jacob, journal d'un anarchiste cambrioleur. Nous sommes avec Vincent Henry pour découvrir ce parcours hors du commun. Bonjour Vincent Henry.
Bonjour.
Alors, comment c'était en 2003 quand vous créez la Boîte à Bulles? C'est quoi les émotions à ce moment-là et les premiers retours en fait?
Alors au départ, moi quand je lance la Boîte à Bulles avec quelques copains, c'est une aventure bénévole. Il se trouve que moi je suis journaliste BD depuis quelques temps et j'avais envie de faire de la production artistique et je suis un fan de BD. Mais je vivais sur mon travail de consultant freelance. Donc quand je me lance dans la Boîte à Bulles, déjà je me lance presque contraint et forcé parce que j'ai proposé à Vanida et un monsieur qui s'appelle José Roosevelt de les publier et tous les deux me disent spontanément oui, très vite. Et du coup je me retrouve au pied du mur. J'en avais envie, et ben voilà, j'y suis. Je ne connais pas grand-chose. Alors, la gestion d'entreprise, je connais. La bande dessinée, je connais bien. Par contre, toute la chaîne du livre, l'impression, etc., je suis pas un professionnel. Donc, je pénètre un petit peu dans un monde inconnu avec l'envie de bien faire et l'envie de me faire plaisir. N'ayant pas comme premier objectif de me salarier un jour, mais vraiment de prendre le plaisir et de faire découvrir des talents que moi je trouve intéressants. Donc c'est grisant, c'est un peu stressant, mais je vous dis, je ne dois pas en vivre, donc ça enlève quand même une certaine pression.
Alors justement, Vincent Henry, c'est à quel moment la bascule où vous devenez... cette fois rémunéré pour la Boîte à Bulles, pour le travail que vous y faites.
Alors en fait, c'est très tard. Hein. J'embauche d'abord des salariés avant de me rémunérer. Et de jusqu'en 2020, ma rémunération par ma société a toujours été inférieure à ce que je gagnais en conseil. Donc même quand je rejoins les Humano en 2017 et jusqu'en 2020, donc je continue à me rémunérer essentiellement sur mon activité de consultant. Et sur la boîte à bulles, je me verse en différé l'équivalent de 1 à 2 SMIC, mais des bénéfices des années précédentes. C'est-à-dire que je ne veux pas peser sur l'année en cours. Je regarde si la société a pu dégager un peu d'excédent les années précédentes et je me verse l'équivalent d'un SMIC, un SMIC et demi. En 2020, donc ça fait donc plus de 3 ans que la boîte à bulles est rattachée aux Humano. Ils sont devenus majoritaires. Je passe de plus en plus de temps sur des sujets autant humanoïdes que boîte à bulles, c'est-à-dire que il y a la relance de Métal Hurlant, et je deviens membre du comité des rédacteurs de Métal Hurlant. Et il y a des restructurations post-Humano auxquelles je participe. Et du coup, là, je deviens, à partir de l'été 2020, je deviens salarié de la boîte à bulles. Donc en fait, j'ai créé la boîte à bulles en 2003 et j'en ai vécu à partir de 2020. On peut dire.
Alors, avant d'avancer un peu plus aussi sur la période actuelle, lorsque vous développez le catalogue, il y a le choix de collection importante qui couvre un panel assez large de l'édition. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous intégrez le groupe des Humano et quelle influence ça a eu sur votre ligne éditoriale ?
Alors, sur la ligne éditoriale elle-même, rien. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire une BD centrée sur l'humain, comme vous disiez dans votre introduction. C'est-à-dire que on publiait des biographies, des autobiographies, des documentaires. On en a fait sur les Gilets jaunes, tout un tas de sujets. Un petit peu de fantastique, mais purement poétique. C'est-à-dire que il n'y avait jamais de grande aventure, il n'y avait jamais de série, il n'y avait jamais de fantastique incroyable, science-fiction, baston, etc. Ça, c'était pas notre registre. Donc notre registre était vraiment autour du témoignage de l'intime et de la poésie. Donc on était autour de ces éléments-là, et justement le fait de rallier les humanoïdes associés avait un gros avantage, c'est qu'on ne se marchait pas sur les pieds. C'est-à-dire que j'avais peur en rejoignant d'autres groupes d'avoir des moments où on se dit mais c'est toi qui le fais ou c'est moi. Là, pour moi, les choses étaient très claires, et pour eux aussi d'ailleurs, et du coup ça c'était rassurant. C'est-à-dire que chacun était chez lui, faisait ce qu'il savait faire, et donc il n'y avait pas d'interférence. J'ai eu une paix royale jusqu'en 2022-2023, vraiment. Mon seul regret, c'est que j'aurais aimé faire un crossover entre les deux, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que les Humano et la boîte à bulles mettent en commun le fantastique un peu plus humain, vous voyez, un peu dans le genre Lupus, chez nous, des gens comme Nancy Peña, ou chez eux, des tours par Epsilon de Lolita, qu'on fasse une sorte de passerelle entre nos deux catalogues pour avoir un certain nombre d'œuvres un peu plus modernes que ce que faisaient les humanoïdes associés dans les années 2010. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à faire démarrer ce crossover. Quoi. Voilà.
Vincent Henry, est-ce qu'il y avait un cadre dans cette intégration, dans cette rentrée dans le groupe des Humano? Il y a d'autres exemples, hein, par exemple les éditions de l'an 2 chez Actes Sud, le Seuil bande dessinée dans le Seuil. Est-ce que vous aviez une obligation d'équilibre, des comptes?
Comment ça se passait? On a équilibré les comptes jusqu'en 2022, sans difficulté. Et j'avais vraiment une paix royale. Ce qui m'était demandé, en fait, jusqu'en 2022, il faut voir que l'entreprise s'est toujours autofinancée. Donc les humanoïdes associés n'ont pas eu du tout à mettre d'argent pour nourrir la boîte. Elle était extrêmement saine. Par contre, on m'avait demandé de faire des œuvres de plus en plus ambitieuses en prenant des auteurs plus connus. Et c'est ainsi qu'on a travaillé avec Pascal Bresson, avec Laurent-Frédéric Bollet, ce genre de personnes qui ont plus pignon sur rue que les auteurs avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Donc la seule chose qui m'était demandée, c'était ça. Moi, je faisais un budget annuel où j'expliquais comment les choses allaient se passer. Et les choses sont devenues plus dures à partir de 2023-2024, pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais l'intégration dans les 5 premières années, en fait, c'était une mutualisation des compétences. C'est-à-dire que la personne qui faisait les relations presse était partagée, la personne qui faisait la vente des droits à l'étranger était partagée, etc. Donc c'était plus des synergies sur tout ce qui était à côté de l'éditorial qu'une intégration complète, si vous voulez. C'était vraiment tout ce qui était périphérique à la création du livre qui, lui, était partagé.
Alors, quels sont lorsque vous intégrez le groupe des humanos pour mutualiser, comme vous le dites, les énergies, quelles sont les émotions à ce moment-là? Est-ce que c'est apaisant de se dire bon ben maintenant on est dans un grand groupe,
c'est plus serein. À l'époque, il y avait un petit groupe, hein. Ils étaient que 6 ou 7 salariés en France. Oui, alors on se dit que parce que moi, si j'ai décidé en 2017 de rallier quelqu'un d'un peu plus grand, c'était absolument pas pour des raisons financières. C'était essentiellement parce que mes salariés avaient démissionné, mes 2 salariés historiques. Elles avaient envie de voler ailleurs, de reprendre les études pour l'une, de devenir commerçante pour l'autre, de changer de métier, donc. Et je me suis dit, si on est dans un groupe avec mutualisation des forces, j'aurais moins à redémarrer à zéro s'il se passe quoi que ce soit. En outre, j'ai approché des 55 ans, maintenant j'en ai 59, et du coup, j'avais à cœur de transmettre ma boîte, qu'elle continue, ma petite boîte à bulles, qu'elle continue son petit chemin sans moi. C'est pour ça que j'ai jamais donné mon nom à cette maison d'édition, à la différence d'autres créateurs de maisons d'édition, que j'ai toujours eu à cœur que cette maison d'édition ne soit pas que mienne, mais qu'elle existe pour elle-même. Et du coup, j'étais plutôt satisfait de me dire que j'étais près de mes objectifs.
Le catalogue représente un nombre de titres importants. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 400 titres. Par rapport à l'édition indépendante, donc depuis 2003 jusqu'à 2017, la boîte à bulles a quand même marqué le paysage de la bande dessinée par cette solidité et cette conviction dans vos partis pris pour la création de votre catalogue. Comment le viviez-vous à ce moment-là et comment se passait le choix d'un titre, par exemple ?
Alors, nous étions sans doute l'éditeur indépendant de petite taille qui faisait le plus de créations. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs, petits éditeurs, font de la traduction. Ça et là, par exemple, ne fait un peu de création, mais 100% des auteurs doivent avoir un passeport non français ou belge. Donc, on était le seul, je pense, à faire plus d'une dizaine de créations par an. Et 50% des auteurs qui publiaient chez nous à la boîte à bulles, ils faisaient leur premier album. Donc il y avait vraiment une idée d'accompagner des jeunes auteurs. Après, on espérait qu'ils restent un peu plus longtemps si c'était possible, mais si un jour ils se faisaient débaucher par Dargo ou par Glénat, c'était en même temps un signe que nous avions bien fait notre travail, puisque ces auteurs à qui nous avions donné leur première chance valaient le coup, entre guillemets, puisque même des gros éditeurs s'en emparaient. Donc on était à la fois agacés, parce qu'on aurait bien continué à travailler avec eux, et assez fiers. Voilà, quand Vanida se fait débaucher par Dargo très très rapidement après, en 2004, voilà, on se dit qu'on n'a pas eu le nez creux, quoi. Voilà. Mais choisir des livres, en fait, il y a abondance de propositions, en fait. Au début, dans les premières années, au tout début, vous cherchez un peu. Au bout d'un ou deux ans, les auteurs voient qui vous êtes et du coup, vous proposent des choses qui correspondent à votre catalogue. Donc, c'est assez simple de trouver des titres. Il faut choisir les bons, il faut choisir les gens aussi avec qui on a envie de travailler, parce que il y a une relation, il y a un côté humain qui est très important, et on n'a pas envie d'être dans des tensions permanentes, donc ça aussi c'est très important. Par contre, il y a eu une sorte de virage vers 2015, c'est-à-dire que la ligne éditoriale que nous on avait, qui était des romans graphiques, vraiment ancrés dans la vie réelle, des témoignages, etc., ça a commencé à se répandre chez tous les autres éditeurs. Donc on s'est retrouvé en concurrence, là où avant, il n'y avait que, je dirais, Futuropolis, Delcourt et nous qui faisions ce type de livre hein, en création. On s'est retrouvé avec des gens comme Steinkiss, Duno Graphique aujourd'hui, Bayer Graphique, etc., etc. Plein d'éditeurs qui se sont mis à prendre à peu près une ligne éditoriale proche de celle que nous on avait. Et du coup, c'est devenu plus cher de garder un auteur parce que la concurrence était plus féroce. Tant mieux pour les auteurs. Mais nous, ça nous a mis un petit peu dans la difficulté.
Alors, comment se passait pour vous la rencontre avec un auteur ? Quelles paroles d'éditeur vous souhaitiez avoir en retour sur les propositions ? Est-ce que lorsque vous avez choisi de faire le livre, comment se passe la relation avec l'auteur ou l'autrice que vous alliez publier ?
Alors, la plupart du temps, la relation démarre par un projet qu'on reçoit par Internet. Pour quelques auteurs, on se reniflait depuis quelque temps. C'est-à-dire que c'est des gens que j'aimais bien le travail, ils savaient que j'aimais bien leur travail. Et donc, on se disait qu'un jour ou l'autre, on finirait par travailler. Mais le travail concret démarre vraiment sur une proposition générale de l'auteur qui vous soumet un résumé de son livre, qui vous soumet 3 pages dessinées. Vous regardez ce projet et vous avez 3 réactions possibles. La première réaction, c'est non. Ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas dans ma ligne éditoriale, ou c'est pas assez mature, ou c'est pas... Voilà. Le deuxième, c'est oui, j'adore. Et donc là, vous dites à l'auteur très rapidement que vous adorez ce qu'il fait, et vous vous mettez d'accord sur les conditions. Et après, vous avez le oui, mais. C'est ah oui, ça m'intéresse, mais je trouve que le traitement graphique que tu as choisi pourrait être un peu différent, ou l'angle que tu as choisi pourrait être un peu plus ci ou un peu plus ça. On discute avec l'auteur pour trouver notre envie commune, pour que le propos de l'auteur arrive au lecteur le mieux possible. Et si on trouve un terrain d'entente, à la fois éditorial et financier, on fait le livre. Voilà, il y a ces 3 cas. Souvent, le plus lent, c'est le 8 mai, puisque il faut qu'on analyse en détail et qu'on discute. Voilà. Et ensuite, on travaille main dans la main. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui travaille, évidemment, 90% du temps, 95% du temps. Mais nous, à la boîte à bulles, on a toujours pris un énorme soin à relire les livres. C'est-à-dire que l'auteur nous envoie souvent le scénario, on le relit. Il nous envoie après ce qu'on appelle le storyboard, on le relit, on met des petits post-it partout pour dire là, attention, la bulle pourrait être là, attention, l'enchaînement des cases n'est pas complètement compréhensible, ou pour dire waouh, c'est génial. Et ensuite, on relit le livre fini, on discute post-face, on discute cahier documentaire, on discute papier choisi, etc., etc. Voilà comment ça se passe avec... entre un éditeur et un auteur, en tout cas à la boîte à bulles.
Est-ce que il y a par exemple alors l'Ours Barnabé, qui n'est pas une série créée par la boîte à bulles, mais que la boîte à bulles a accueilli, donc Philippe et Jean-Claude Coudray, Jean-Luc Coudray, ont vraiment donc Jean-Philippe, c'est ça.
Non, c'est alors la boîte, il se trouve qu'ils sont 2 jumeaux.
Oui, c'est ça.
Et c'est Philippe qui fait les
dessins.
Fait l'Ours Barnabé. En fait, justement, on parle de relations avec les auteurs. J'ai d'abord travaillé avec Jean-Luc, qui m'a envoyé sa série humoristique, qui est absolument génialissime, même si elle n'a pas trouvé un large public, je vous la recommande. Ça s'appelle Béret et casquette, on a fait une superbe intégrale après. Donc on a commencé à travailler avec Jean-Luc sur son livre. Et quand j'ai appris que l'Ours Barnabé se retrouvait sans éditeur, j'ai dit à son frère, que je connaissais bien du coup, qu'il vienne quand il veut avec son ours Barnabé. Et donc nous avons servi de refuge pour l'ours Barnabé à partir de 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Et on a même créé une petite collection jeunesse autour du personnage.
Alors avec l'Ours Banabé, c'est développé un ensemble de propositions pour les libraires, pour les bibliothèques. Là aussi, c'est une action de l'éditeur ou c'est les auteurs qui développent cet aspect-là ? Comment s'est passé aussi le contact avec Philippe et Jean-Luc Coudray ?
Alors avec Philippe et Jean-Luc, le contact s'est extrêmement bien passé. Comme on était une toute petite structure, ce sont des gens engagés dans la décroissance, etc. Ben Jean-Luc a été même candidat, je crois, pour la partie de la décroissance. C'est des gens qui préféraient travailler avec une petite structure où il y a une réponse claire, où ça reste à niveau d'homme. Donc le contact s'est établi de façon très, très courtois, très franche. Ce sont des gens adorables. Et sur le mode de la confiance. Pour moi, c'était très, très important de travailler en confiance. Voilà. Et à partir du moment où on a eu l'Ours Banabé, ben on a développé alors une maquette qu'on a travaillée avec mon graphiste de l'époque pour avoir un petit côté luxe, un petit côté haut de gamme avec cette reliure d'eau toilée qui a bien plu au départ. Après, ça a été plus compliqué parce que le marché s'est déplacé vers les livres de type Bayard, beaucoup plus épais et beaucoup plus souples. Mais au moment où on l'a lancé, c'était un bon choix. Voilà. Et on a toujours travaillé en confiance et j'ai toujours l'amitié de Philippe et Jean-Luc et j'en suis très heureux.
Vincent Henry, je vous propose le deuxième titre de votre programmation musicale, c'est Rosalia. Et on se retrouve juste après, puis on va discuter aussi la partie scénario et l'actualité aujourd'hui. À tout de suite.
Avec plaisir.
Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vim? Que sou esta que aqui estou? Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou? Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor. Alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci e amei, com quem vivi e me dei, ou se a algo eu pus fim. Será que tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces quem eu fui e sou em fim?
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Vincent Henry, créateur des éditions de la Boîte à Bulles et également scénariste. Alors Vincent Henry, en 2013, c'est la sortie d'un premier scénario, la Boîte à Bulles en images, et puis après d'autres titres, et notamment Alexandre Jacob, journal d'un anarchiste cambrioleur. Alors, comment s'est passé ce passage aussi à l'écriture ?
Alors, l'anecdote amusante, c'est qu'en fait, avant de lancer la Boîte à Bulles, j'avais un projet sur les geôles de Hassan II qui avait été accepté par guider le cours avec un dessinateur qui, en fait, n'a jamais enclenché derrière. Donc, j'aurais dû être scénariste de bande dessinée avant d'être éditeur, puisque je rêvais d'être scénariste autant qu'éditeur. Donc, en 2002, j'ai beaucoup travaillé sur un scénario qui n'a pas abouti. En 2010 ou 2011, j'ai travaillé sur un deuxième scénario qui était celui d'Alexandre Jacob, avec un auteur. Et en fait, les retours qu'on a eus, c'est que le dessin ne collait pas avec l'histoire. Donc, bon, moi, j'étais pas d'accord, mais bon, les éditeurs le pensaient, et je ne voulais pas m'auto-éditer. Donc, il se trouve que j'ai un neveu qui faisait des études de dessin pour la bande dessinée, qui est sorti de son école et qui cherchait un scénariste. Et du coup, nous avons fait nos premières armes, hormis la boîte à bulles en images, qui est un livre commémoratif de nos 10 ans. Hormis ce livre, c'est mes premiers pas en bande dessinée, je les ai fait avec mon neveu, et lui aussi, il les a fait avec moi. Et on a signé donc ce livre chez Sarbacane, qui a accepté le projet, qui est le seul d'ailleurs à avoir eu envie de ce projet-là, mais on a été ravis de travailler sur ce livre. C'était l'histoire donc d'un anarchiste cambrioleur dont j'avais entendu parler 15 ans avant, qui m'avait interpellé, parce que toute sa vie, il était resté droit dans ses convictions et dans sa vocation. Et il voulait faire tomber la société bourgeoise en faisant de la reprise individuelle, c'est-à-dire en volant les riches pour distribuer à la cause anarchiste. Son personnage a inspiré par son mode d'opération a inspiré Arsène Lupin. Voilà, donc Maurice Leblanc pour ce personnage d'Arsène Lupin, qui lui n'est pas anarchiste. Donc Alexandre Jacob a un côté plus intéressant, c'est qu'il avait une vraie cause à défendre. Voilà. Donc moi j'adore l'histoire, j'adore le 19e siècle, et on a réussi à placer ce scénario, et du coup j'ai pu devenir un scénariste, et depuis j'essaye de faire un livre tous les ans ou tous les deux ans. Voilà. Et c'est comme ça que j'essaye de. Et à l'avenir, je veux continuer à travailler sur de nouveaux scénarios.
Alors, Vincent Henry, quand vous travaillez, par exemple, quand vous faites le scénario d'Alexandre Jacob, là, le dessin de Gaël Henry est un dessin très ironique, donc. Qui crée une certaine relation entre le thème et la mise en image et sa dimension historique. Comment visualisez-vous vos scénarios? Quels documents présentez-vous aux dessinateurs et quel lien pouvez-vous faire entre la dimension dessinée et le récit, et notamment l'exemple d'Alexandre Jacob avec ce dessin ironique.
Alors, certains scénaristes disent qu'ils ne travaillent pas pour un dessinateur en particulier. Moi, je dois avouer que de savoir qui dessine influe, au contraire, sur ma façon de raconter. Effectivement, mon neveu, en fait, pour raconter toute l'histoire, quand je lui ai passé mon scénario d'Alexandre Jacob, il a commencé par me dire « ça ne m'intéresse pas ». Et il est revenu vers moi un mois plus tard en me disant « en fait, on peut peut-être en faire quelque chose, mais il faut que ça soit dynamique, il faut que ce soit un peu bondissant, il faut que ce soit un peu drôle, etc. » Donc en fait, sur Alexandre Jacob, c'est lui qui m'a fait prendre ce ton-là. Donc, et même, je dois avouer que quelques gags visuels, etc., sont de sa création. Donc, dans le cas d'Alexandre Jacob, je lui racontais l'histoire avec des dialogues, etc., tous les éléments intégrés, et lui prenait certaines libertés, dont on parlait à cette fameuse étape du storyboard, c'est-à-dire que s'il avait retouché des choses à mon scénario pour faire sa mise en page, soit je trouvais que c'était cohérent avec la réalité historique et avec ce que je voulais raconter, et j'étais enchanté de sa proposition, soit je trouvais ça dérangeant parce que anachronique, parce que pas cohérent avec ce qu'était réellement Alexandre Jacob, et du coup je lui demandais de corriger. Donc sur ce livre-là, on a été beaucoup en jeu de ping-pong, même sur les dialogues, la relation visuelle, etc. À l'opposé, le dernier livre que j'ai scénarisé, c'est une adaptation de Virginie Grimaldi et Que ne dure que les moments doux, qui s'appelle donc Les moments doux. Sur ce livre-là, au contraire, donc vous voyez, ça dépend complètement du dessinateur et du propos. J'avais des chapitres qui étaient très courts. Chaque chapitre faisait 2-3 pages, donc il fallait faire des scènes très compactes. Et du coup, sur ce livre-là, j'ai réellement expliqué case par case ce que je voyais, ce que je voulais. Et quand je recevais le storyboard de Valeria Gufanti, ma complice dessinatrice, j'étais hyper content parce qu'en fait, on se comprenait. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'avais en tête, ce que je visualisais dans ma tête, c'était sur le papier tout de suite. Elle comprenait ce que je voulais dire, ou je savais lui parler, et les deux, je pense. Et du coup, on avait une vraie osmose. Et ça, c'est assez jouissif. Dernier point, dans les livres historiques, j'ai tendance à donner énormément de documentation aux auteurs. Donc des visuels, des références à veux-tu en voilà, des vidéos, etc. Et même dans des bandes dessinées contemporaines, quand j'ai une image que je veux, dont je sais exactement ce que je veux, il peut m'arriver de me photographier pour donner l'image, pour montrer la position du personnage que je vois, l'attitude. Voilà. Parce qu'en bande dessinée, on n'en parle pas beaucoup, mais le jeu des acteurs, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour suivre une histoire, pour se plonger dedans, il faut que l'acteur joue juste. Si l'acteur, il surjoue, ou s'il n'a aucune émotion, eh ben on est moins intéressé. Donc c'est un élément hyper important.
Et pourtant, Vincent Henry, une des difficultés de la bande dessinée, c'est d'arriver à exprimer ces nuances dans les expressions, comme le cinéma peut le faire, par exemple.
Exactement. Et en tant qu'éditeur, il m'arrive de dire à des dessinateurs, attention, par exemple, les Italiens, il y a quelques années, avaient tendance à faire surjouer leurs personnages. Ah, vous voyez, les grandes expressions, un petit peu, moi je ne suis pas très fan, par exemple, de Garpé et Jacobs, il y a un côté un peu caricatural dans les attitudes, et moi je préfère quelque chose de très juste et de plus fin. Et dans Les moments doux, par exemple, qui est un livre, c'est ce qu'on appelle parfois un peu de la littérature pour... la littérature féminine, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement basé sur des ressentis, des émotions qui sont hyper bien dosées par Virginie Grimaldi. Et si Valeria au dessin en avait trop fait ou pas assez, enfin notre bande dessinée aurait été foirée. Et elle a vraiment mis exactement les émotions dans les yeux des personnages dont j'avais besoin à ce moment-là pour faire passer l'émotion qu'avait décrite dans son roman Virginie Grimaldi, ou que moi j'avais envie de retransmettre par rapport à ce qu'avait écrit Virginie Grimaldi.
Vincent Henry, comment s'est ouvert l'horizon après votre licenciement et le changement de nom de la boîte à bulles en Pictavita?
Alors, une chose à dire, c'est que le licenciement en tant que tel, moi, j'étais pas opposé parce que ma situation devenait trop insupportable pour moi. Voilà. Par contre, ce qui était difficile pour moi, c'est le fait que, comment dire, moi, je voulais que ma maison d'édition continue sur les mêmes rails, continue à se développer avec le même nom, etc. Et là, j'ai pas eu l'impression de transmettre, j'ai eu l'impression qu'on m'a piqué. Voilà. Donc ça, c'est assez compliqué. Ensuite, moi, dans mes relations avec les auteurs, j'avais à cœur de leur expliquer ce qui se passait, d'être très transparent. Je trouve que quand on fait des affaires avec quelqu'un, et signer un contrat d'auteur, c'est aussi un contrat d'édition, c'est aussi faire du business avec quelqu'un, je trouve hyper important d'être transparent. Donc j'envoyais tous les 6 mois des mails aux auteurs pour leur dire, voilà, la maison va bien, la maison va moins bien, on a tel développement, on crée ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc j'adorais partager avec les auteurs. Et j'adorais travailler en confiance. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un auteur, je m'engage à publier ton livre, on n'est pas clair sur tel et tel point, donc je ne peux pas te faire un contrat, mais ce mail vaut contrat, et tu peux te renseigner sur la place de Paris, enfin sur la place de... J'étais pas à Paris, mais c'est pas grave. Tous les auteurs te diront que quand je dis blanc, je fais blanc. Mais quand je dis noir, je fais noir. Et que ce que je dis ce que je te dis m'implique, que ce que je te dis est important. Et maintenant, depuis que je ne suis plus responsable de cette maison d'édition, de nombreux auteurs reçoivent des lettres en recommandé ou en envoi, etc. La relation entre l'éditeur et l'auteur a l'air et les auteurs a l'air beaucoup plus conflictuelle que moi je faisais et ce qui était dans mes valeurs, quoi. Moi j'essayais, on pouvait s'engueuler parfois, hein, je veux dire, dans la vie, parfois on n'est pas d'accord, donc il peut y avoir des frottements, mais j'essayais toujours que les choses restent dans le domaine de l'humain et dans le domaine de la discussion, de la confrontation de points de vue. Voilà. Et là, c'est plus le cas, de ce que je comprends. Et ça, pour moi, c'est assez compliqué à vivre.
Vincent Henry, est-ce qu'il y a encore une envie d'être éditeur ?
Oui. En fait, à la base, quand je suis rentré aux Humano, je devais évoluer vers l'audiovisuel. C'était un peu le plan qu'on s'était dit, Fabrice Gigère et moi, et ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, je suis un peu le cul entre trois chaises. J'ai envie d'avoir du temps pour scénariser, parce que ces dernières années, j'ai pu faire qu'un livre en 4 ans, ce qui n'est pas ce que je voulais faire comme rythme. Donc je veux scénariser. J'ai toujours des envies d'édition parce qu'il y a des gens avec qui j'adore travailler et que je vois passer leurs projets. Je me dis, ah ouais, il faudrait qu'on le fasse ensemble, quoi. Et donc j'ai cette deuxième point. Il y a cette dernière petite envie que j'ai pas encore assouvie, qui est de travailler à la production, soit de dessins animés, soit de documentaires, soit de films de fiction. Les trois me plaisent. Et du coup, oui, l'édition, mais si je le fais à plein temps, c'est vraiment qu'on m'aura donné un défi qui me fait saliver, qui me plaît. Sinon, je ferais plutôt ça à temps partiel.
Merci beaucoup, Vincent Henry.
Donc, de rien, merci à vous pour vos questions.
Et puis, on va suivre les prochains scénarios et puis peut-être d'autres participations à l'édition. Très bonne continuation à vous.
Merci à vous, bonne
Au
journée.
Revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Dans le ciel, les mains pleines de rêves, poussées par la chaleur du soleil et des vents doux, j'ai laissé les distractions se tuer entre elles, et j'ai volé au loin, au bien trop loin de toi. J'ai parcouru du regard nos liens de l'est à l'ouest, pour finir par laisser tous nos bonheurs en reste. J'ai tenu mes envies de revenir en laisse, et j'ai pleuré au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place et dans tes bras. J'ai crié comme j'ai pu que j'avais ma place, sur la terre comme au ciel, voulu laisser ma trace. J'ai joué mes bonheurs faciles à pile ou face, et j'ai perdu au loin, au bien trop loin de toi. Éclairs me rappellent à la guerre, comme si au combat mes convictions redevenaient fières. J'ai embrassé 3 fois la main de Lucifer, et j'ai brûlé au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie.
Je voudrais terminer cette émission avec le dernier livre d'Emmanuel Lepage. C'est un auteur que j'ai invité à plusieurs reprises. Il y a eu différents entretiens. Il a une œuvre très conséquente maintenant. Et plusieurs livres ont vraiment marqué son évolution. Notamment le passage aux éditions Futuropolis, où il a pu développer un ensemble de romans graphiques, et notamment ceux qui lui ont permis de découvrir bien l'Antarctique et les terres australes françaises. Donc on a eu par exemple en 2011 Voyage aux îles de la Désolation, et puis d'autres livres comme La Lune est blanche. Le dernier livre d'Emmanuel Lepage s'appelle Danser avec le vent. C'est un livre important, mais un peu comme tous ses livres, parce que il y a de façon souterraine des questions à la fois de scénariste et de dessinateur. Les questions de dessin est un livre écrit par Edmond Baudouin. Emmanuel Lepage a fait un livre avec Edmond Baudouin. Donc ensemble, ils ont raconté un voyage au Chili. Et il y a, on imagine facilement, leur discussion sur le dessin et sur cette façon de représenter, de mettre en image un récit, d'être au plus près de son dessin. Et dans la plupart des titres d'Emmanuel Lepage, ces questions de dessin sont apparentes, ne serait-ce que parce qu'il apporte des réponses. Les livres sur cette partie de la France, donc ces bases qui sont très éloignées, qui sont dans les terres australes et antarctiques, eh bien, sont l'occasion aussi de représenter une nature qui est très différente de celle que l'on peut vivre, de représenter des relations qu'il y a avec les personnes qui sont membres des expéditions qui se rendent régulièrement dans cette partie du monde. C'était déjà abordé, par exemple, dans Voyage aux îles de la Désolation, mais ici, on a une dimension qui montre tout le chemin parcouru. Emmanuel Lepage évoque d'ailleurs dans son récit, dans le regard qu'il porte sur cette mission, il est engagé pour en rendre compte en dessin et en bande dessinée, et il évoque ce qui a changé en 12 ans, et notamment la façon dont il va parler des relations humaines qui sont à l'œuvre dans ces expéditions où, par exemple, le nombre d'hommes est beaucoup plus important que le nombre de femmes, où la nature est extrêmement présente, est dense, est rude. Des missions sont très différentes pour chacun des participants. Il y en a qui sont là pour réguler le nombre de spécimens d'une espèce. On trouve des chats là-bas qui, en se développant, eh bien, sont devenus des prédateurs pour ce qui est appelé les bonbons, c'est-à-dire ces tout jeunes éléphants de mer, et aussi vis-à-vis des oiseaux, où ils deviennent des prédateurs qu'il faut réguler. Et donc, on a des approches très différentes de ces expéditions. Donc très vite, dans ce danser avec le vent, on va être dans ces relations humaines, on va être au milieu de ces différents paysages, de cette dimension impressionnante de la nature, il n'y a pas d'autre mot. Et on va être au plus près des questions que se pose Emmanuel Lepage pour représenter véritablement cette nature et ses relations. Emmanuel Lepage est un dessinateur étonnant. J'ai parlé la semaine dernière de cette extrême précision du dessin avec le deuxième tome de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Danser avec le vent a cette même exigence d'une extrême précision du dessin. Cette fois, ça passe pas du tout par un système de hachures, puisque Emmanuel Lepage travaille à l'aquarelle avec très souvent de la couleur directe. Il y a parfois un trait de contour qui est une nuance un peu plus foncée d'une couleur pour qu'il y ait une lisibilité de l'image. Mais il y a une volonté d'avoir une représentation réaliste, mais pas au sens enfermant. D'être réaliste pour être au plus près à la fois du paysage et à la fois du portrait des attitudes, des gestes qui sont à l'œuvre dans ces différentes missions. Il y a aussi la représentation de l'auteur lui-même qui est aussi au cœur de cette expédition. Et la représentation de la nature, par exemple, ne peut pas passer simplement par une façon réaliste comme un photographe pourrait le faire. Il y a une interprétation, il y a une question de dire comment je représente cette masse rocheuse, comment je représente dans la brume ces silhouettes de montagnes qui font impression. Comment à chaque fois rendre compte, mais avec cette précision du dessin. Pour les portraits, c'est la même chose. En regardant les voyages au pays de la désolation 12 ans auparavant, 13 ans même, puisque le livre a été publié après, il y a une précision dans les portraits, dans les regards, dans les attitudes, dans les gestes, dans les situations, dans ces choix des cadrages, dans ces choix des enchaînements de cases. Une précision qui fait qu'on a une complète lisibilité, mais que la qualité de portrait fait qu'on est au plus près, on est dans l'intimité des personnes dessinées, comme on va être dans l'intimité d'Emmanuel Lepage, dans son intériorité même, quand il se représente et évoque ses doutes, son manque de confiance en lui et tout ce qui se joue pendant ce voyage. Il y a un récit qui va être d'ampleur, qui va se déployer sur plus de 200 pages. On a un cahier graphique à la fin qui montre aussi comment Emmanuel Lepage va capter dans ses carnets les moments vécus, les questions qui se posent, par exemple, sur la représentation des vagues et de l'écume des vagues, de l'entrave du bateau qui rentre dans l'eau, les portraits. La façon dont il va capter cette précision des visages tout en donnant avec l'aquarelle cette énergie, cette liberté, toutes ces nuances de ton. Les rochers de ce carnet graphique, par exemple, sont impressionnants parce qu'il y a une facilité, une force dans le tracé qui est remarquable. Le réalisme qui est à l'œuvre, en fait, est beaucoup plus libre que celui de certains dessinateurs besogneux qui veulent absolument que leur dessin ressemble à une photo. Là, il y a une sorte de facilité dans la représentation d'un ensemble d'éléphants de mer ou ces très belles images avec ces colonies de manchots où on peut marcher au milieu des manchots qui ne semblent pas vous considérer comme un prédateur. À chaque fois, cette précision graphique nous entraîne immédiatement dans le contenu de l'image parce que chacun de ces points de vue dans ce territoire du bout du monde, est signe aussi pour nous de dépaysement. C'est vraiment un livre tout à fait remarquable qui montre cette évolution, cette œuvre en pleine création, en pleine. Son grand œuvre est déjà à l'œuvre et Emmanuel Lepage poursuit cette route vers ce grand œuvre et c'est c'est réjouissant, tout simplement. Danser avec le vent d'Emmanuel Lepage est un livre qui est publié par les éditions Futuropolis. Le lettrage de ce livre est de Steven Roudot. Il fait 224 pages, donc avec ce cahier graphique, c'est un grand format. Donc on a vraiment un espace de la case qui permet de profiter pleinement de ce voyage d'Emmanuel Lepage dans les terres antiques et australes françaises. Et son prix est de 29 euros. Il a été également imprimé en France. Merci Issa pour cette technique. Je vois que je termine juste à l'heure. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.